Radio Kapi. Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Une réponse militaire ferme aux provocations, l'engagement politique de bonne foi et l'opérationnalisation du PDDRCS, province par province. Telles sont les solutions pour régler définitivement le problème de la rébellion du M23, selon la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Le secrétaire général de la CENCO salue l'évolution des travaux sur le site de l'aéroport de Ndolo à Kinshasa, où le pape François dira la messe le 3 juillet prochain. Le chapelain Donatien Chollet déplore cependant la lenteur de la régie des eaux et de la SNEL qui ne s'accute pas de leurs tâches. Notre invitée, c'est la directrice des programmes d'alerte internationale, Lassie Williams, parle des actions menées par cette ONG britannique pour restaurer la paix et la cohésion à l'est de la RDC. Elle fait remarquer cependant que beaucoup des tireurs de ficelles compliquent les efforts de pacification. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Polydor Basunga. Une réponse militaire ferme à toute provocation, un engagement politique de bonne foi et une opérationnalisation du PDDRCS province par province constituent les conditions pour régler définitivement le problème du M23. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi à Goma, au Nord Kivu, la chef de la MONUSCO lors de la conférence de presse des Nations Unies. Les propos de Madame Bintou Keïta ont été sélectionnés par Honoré Missenga Kalala.
Nos efforts doivent se poursuivre pour régler le problème M23 une bonne fois pour toutes. Cela passe par une réponse militaire ferme à toute provocation ou attaque. La MONUSCO a utilisé tous ses moyens, y compris ses hélicoptères, pour riposter aux attaques lancées contre elle et soutenir l'armée congolaise. Deuxièmement, une réponse politique où chacun s'engagent de bonne foi. Les pays de la région ont créé eux-mêmes, notamment le mécanisme conjoint de vérification élargie, chargé de surveiller et de mener des enquêtes sur les incidents de sécurité dans la région des Grands Lacs. Enfin, la réémergence du M23 nous rappelle douloureusement l'urgence absolue de lancer l'opérationnalisation du programme DDRCS province par province.
Malgré les efforts consentis ce jour-ci par le gouvernement congolais pour mettre fin à l'insécurité, les violences des groupes armés se poursuivent dans l'est du pays. Déclaration faite hier à New York par la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique devant les membres du Conseil de sécurité. Le Conseil a examiné la situation après l'attaque de rebelles du M23 comme contre les FRDC et les casques bleus de la MONUSCO. Madame Martha Pobi parlait d'une menace grave pour la paix et la stabilité de la région. Elle est au micro de Jérôme Bernard de la Radio des Nations Unies à New York.
Malgré les efforts déployés par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour lutter contre l'insécurité dans l'est du pays, la violence des groupes armés a continué de faire payer en lourd tribut à la population civile dans plusieurs territoires de province. La récente résurgence du mouvement du 23 mars connu comme M23 en particulier, et ses actions hostiles contre les forces armées congolaises et les casques bleus de la MONUSCO au Nord Kivu aggravent une situation déjà sérieuse. Elle continue une menace grave pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.
Pour sa part, l'envoyé spécial des Nations Unies dans la région des Grands Lacs a salué hier l'engagement du continent africain exprimé par le président sénégalais Macky Sall à soutenir la RDC afin de trouver des solutions à ce problème de longue date. Je vous propose d'écouter Huang Xia.
Au-delà de cette dimension sécuritaire, nos engagements politiques collectifs doivent plus que jamais se poursuivre. J'encourage les dirigeants de la région à poursuivre leur dialogue de haut niveau sur les moyens pour faire face à la menace que représentent les groupes armés et pour éviter une escalade des tensions entre la RDC et ses voisins. Le dialogue entre les dirigeants concernés de la région reste en effet une condition sine qua non pour mettre fin de manière durable à ces problèmes qui sont anciens et profondément enracinés. Il est donc capital de continuer à mobiliser les mécanismes bilatéraux et régionaux disponibles, y compris le récent processus du conclave de Nairobi, la conférence internationale pour la région du Grand Lac et bien entendu l'accord cadre d'Addis Abeba.
L'actualité, c'est aussi cette marche pacifique organisée par les forces vives dans les rues de la ville de Bukavu ce mercredi au Sud Kivu. Objectif affiché, exprimer leur soutien total au FRDC et désapprouver l'agression de la RDC d'où qu'elle vienne. Le récit d'Emmanuel Elmejua Kabedi.
C'est une foule compacte qui a manifesté depuis la place Munziirwa à Nyawera jusqu'au gouvernorat de province en commune d'Ibanda. Organisations de la société civile, étudiants, motards, enseignants ainsi que les femmes étaient de la partie. L'essentiel du message consiste à dire non à l'agression du pays et manifester le soutien total au FRDC. Devant le cabinet du gouverneur de province, Jean Chrysostome Kidiana, un des initiateurs de la marche, a lu le mémorandum adressé au président de la République. La population du Sud Kivu demande au chef de l'État d'octroyer des moyens conséquents à l'armée et d'autres services de renseignement pour assurer l'intégrité et la souveraineté nationale, mais aussi d'honorer tous les militaires blessés et ceux qui tombent sur le champ de bataille. Autre demande au chef de l'État, c'est celle de procéder à des réformes profondes au sein de l'armée pour s'assurer des militaires réellement engagés pour la patrie. Aucun incident majeur n'est enregistré alors que toutes les autres activités économiques se déroulaient normalement à Bukavu. Emmanuel Elamijwa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Les FARDC et l'armée ougandaise ont décidé ce mercredi matin de prolonger les opérations conjointes dénommées Shujaa, des opérations lancées depuis 6 mois contre les rebelles ougandais de l'ADF au Nord Kivu et en Ituri. C'était au cours d'une réunion d'évaluation tenue ce matin dans la ville de Potepote, dans le district ougandais de Kabarole. Les deux armées ont également décidé de lancer la troisième phase de ces opérations militaires. Des précisions avec le coordonnateur de ces opérations, les propos du général-major Camille Bombélé ont été recueillis par la presse des FARDC.
Nous recevons des ordres écrits par nos autorités sur papier et quand ça arrive, nous les décortiquons et nous arrivons à prendre de l'essence qu'il y a dans ces instructions-là et nous mettons ça en pratique. Donc les opérations conjointes, ce que nous avons appelé l'opération Shujaa, continue. Nous-mêmes, nous savons que nous avons reçu mission d'opérer, mais nous n'avons pas encore fait la conclusion de l'éradication totale de l'ennemi. Donc pour nous, tant que les hiérarchies militaires et politiques ne nous ont pas encore donné ces instructions-là, donc les opérations continuent.
On passe en Ituri où il y a eu ouverture ce mercredi à Réti dans le territoire des Djougou d'un dialogue intercommunautaire de plus de 300 leaders de la communauté Lendou élargie aux miliciens de la Codeco. Les participants aux assises réfléchissent sur les causes de l'insécurité et les pistes des solutions en prévision du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Ces assises de Réti sont organisées par le gouvernement avec l'appui financier de la MONUSCO. C'est ce que nous explique à Bounia Jean-Claude Lokidile.
Des notables, des chefs coutumiers, des acteurs politiques, associations des jeunes et organisations des femmes sont présents à ces assises. Durant 4 jours, les participants vont identifier les principaux obstacles au rétablissement de la paix et au développement socio-économique dans cette région. Parmi ceux-ci, il y a le chômage, l'oisiveté des jeunes ou encore la manipulation par certains tireurs de ficelles. Une situation qui a fait perdre au territoire de Djougou son statut de grenier agricole de l'Ituri. Des bons Moïssa de la section des affaires civiles de la MONUSCO à Bounia.
Nous allons les aider à voir comment se projeter dans l'avenir et tourner la page de violence et ramener la sécurité, la paix et le développement dans les entités affectées par la violence.
Pour le porte-parole du peuple lindou, le but de la démarche est aussi d'associer les leaders du groupe armé Codeco pour qu'ils contribuent au retour de la paix dans la zone. Jean-Marie Ndjazad.
Quand on parle de transformation de ses potentialités à richesse, il s'agit de parler de développement. Codeco est à l'objet de l'insécurité dans le territoire de Djougou. Nous avons bien voulu que différentes factions participent à ces travaux afin de mettre fin aux exactions.
À noter qu'au terme de ces assises sont attendues les déclarations de la communauté mais aussi de la CODECO à travers lesquelles ces parties vont solennellement s'engager à œuvrer pour la paix. De Réti, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, plus d'un million de Congolais sont attendus le 3 juillet prochain à la messe du pape François, ici à Kinshasa, qui est attendue en visite en RDC. Le secrétaire général de la CENCO salue l'évolution des travaux sur les sites de l'aérodrome de Ndolo, où se tiendra l'événement. Ces travaux sont financés par le gouvernement central. Le chapelain Donatien Cholet déplore cependant la lenteur de la Régie des eaux et de la SNEL, qui ne s'acquittent pas convenablement de leurs tâches. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Je suis content de voir que les travaux de la tribune imposante de 950 mètres carrés évoluent bien. Ils ont fait un timing réaliste, ils travaillent jour et nuit. Mais je suis un peu préoccupé par d'autres aspects non moins importants. Il y a la Régie des eaux, par exemple, qui doit mettre en place des fontaines pour servir des milliers de gens qui vont être là. Il y a la SNEL qui a encore à faire. Et surtout, on devra avoir au moins 32 accès pour les entrées, ce qui faciliterait les entrées pour qu'il n'y ait pas de bousculade. Avec 24 quartiers d'un hectare séparés par des allées, donc toutes les dispositions sont prises pour qu'on gère même plus d'un million sans difficulté. Le gouvernement prend la mesure de la chose. Les travaux qui se font ici, c'est le gouvernement qui a financé.
On en vient maintenant à la poursuite au Sankourou de la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Le chef de division de la santé affirme que cette campagne de distribution qui se termine la semaine prochaine concerne plus de 5000 ménages dans 16 zones de santé de la province. Docteur Aimé Alonga demande par conséquent aux habitants de ne pas les utiliser à d'autres fins. Il a été joint par Esther Nalafina.
Nous avons lancé la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés de insecticides dans la province du Sankourou depuis le 30 mai pour une durée de 8 jours. Ça prendra fin le 6 juin. Nous avons réceptionné au niveau de la province 1 600 297 moustiquaires pour distribuer dans 503 858 ménages. Sera en fonction du taille du ménage. Nous avons notifié plus de cas en 2021 avec une létalité criante due au paludisme. Au niveau de la province, nous avons eu la chance d'avoir l'implication totale de toutes les autorités politico-administratives. Le gouverneur a lancé, l'ATE a pris l'engagement, les chefs de village, les chefs de secteur, même les leaders d'opinion pour que ces moustiquaires ne soient pas utilisés dans des pêches, dans des activités érosives. Que ces moustiquaires soient utilisés réellement dans le ménage pour se protéger contre les moustiques.
Actualité internationale.
Au Mali, un casque bleu de la mission des Nations Unies a été tué et trois autres grièvement blessés ce mercredi matin dans l'attaque de leur convoi à Kidal, une ville située au nord du pays. Et c'est ce qu'annonce à la presse Olivier Salgado, le porte-parole de la MINUSMA. Au 98e jour de l'invasion russe en Ukraine, les forces ukrainiennes semblaient ce mercredi disposées à céder la ville stratégique de Donbass suite à l'avancée de l'armée russe dans l'est du pays. Les Ukrainiens comptent actuellement sur les systèmes de missiles les plus avancés annoncés par Washington, et cela pour renverser la tendance. En réaction, la Russie désapprouve le vaste plan d'assistance militaire avalisé par les États-Unis en faveur de l'Ukraine.
L'invité.
Notre invité, c'est la directrice des programmes d'alerte internationale. Lassie Williams parlait des actions menées par cette ONG britannique pour la restauration de la paix et la cohésion sociale entre les communautés de l'Est de la RDC. Elle affirme que la paix est possible. Cependant, beaucoup de tireurs de ficelles compliquent les efforts de pacification et s'entretient avec Cynthia Bachizina Bizana.
Lucie Williams, bonjour.
Bonjour.
Alerte internationale est en RDC depuis 2002. Vous êtes plus dans tout ce qui est effort pour la consolidation de la paix. Vous faites quoi exactement sur terrain?
Super, merci beaucoup. En fait, ce que nous faisons, c'est on espère d'aider les communautés de trouver les solutions à leurs propres conflits et leurs propres problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On travaille sur le dialogue communautaire et là, on aide les communautés de faciliter leur propre dialogue, leur propre médiation. On les aide aussi à analyser les problèmes, à analyser les vraies causes profondes du conflit. On aide les femmes en particulier, des femmes de différentes couches sociales, de s'impliquer dans les processus de paix, de développement, de gouvernance. Nous avons des projets dans le secteur minier, par exemple, pour travailler sur la sécurité dans les zones minières et voir comment les communautés peuvent mieux profiter de ces mines pour leur propre développement et leur propre sécurité.
Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous des différents conflits qu'il y a entre les communautés, surtout dans la partie est du pays ?
Une chose qu'on constate, on fait qu'il y a beaucoup de confiance entre certaines communautés. Il y a la confiance qui est là. Il y a des mécanismes de gestion et de transformation de conflits qui sont là. La paix est possible. C'est ça qu'on constate. Cependant, il y a beaucoup de tireurs de ficelles qui s'impliquent dans les conflits. Il y a beaucoup des autres problèmes liés aux réponses militaires, en fait. Une réponse militaire peut être nécessaire de temps en temps, mais il faut vraiment mettre devant le dialogue, mettre devant des options paisables pour la gestion des conflits. Et ça, c'est une chose qu'on voit. On a perdu un peu à l'Est aujourd'hui. Il y a beaucoup d'insécurité, surtout pour des communautés eux-mêmes. Ils ne se trouvent pas, ils sont en déplacement. Ça devient plus difficile de gérer leurs propres conflits quand ils sont en déplacement. Donc vraiment, on a besoin de travailler ensemble pour des options non militaires aussi, pour essayer de résoudre les vraies causes de problèmes de ces conflits et vraiment mettre devant les communautés qui sont les plus impactées par ces conflits. Eux-mêmes, ils ont des solutions à donner et c'est à nous aussi à faciliter ce processus.
Vous êtes en RDC depuis 2002. Vous œuvrez dans tout ce qui est cohésion sociale, consolidation de la paix. Aujourd'hui, quels sont vos résultats ?
En particulier, on a travaillé avec les femmes Peace Ambassadors, donc les ambassadrices de paix, à tous les niveaux, au niveau des communautés, au niveau territorial, au niveau provincial et au niveau national. Et donc, on a beaucoup appuyé ces femmes d'avoir une voix plus importante dans leur ménage, dans leur communauté, et passer des messages importants sur la paix, sur le développement, sur la cohésion sociale. Donc ça, c'est une chose qu'on a fait avec le financement surtout de Suédoise et de l'ambassade de la Suisse. Et on voit aujourd'hui qu'il y a les femmes commerçantes qui vraiment renforcent la cohésion sociale entre les communautés à la frontière, mais aussi avec des autres communautés juste à côté.
Vous avez beaucoup de défis. Mm-hmm. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les grands défis auxquels vous faites face ?
L'État est là, mais il faut vraiment travailler pour renforcer les institutions publiques de l'État et vraiment restaurer l'autorité de l'État. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à l'est du Congo. C'est une chose qu'on remarque avec l'État de siège, étant donné que ces institutions publiques sont maintenant gérées par des militaires et par l'armée. Ça risque de vraiment encore faiblir encore ces institutions publiques qui sont déjà très fragiles. Donc ça, c'est un grand défi sur lequel nous tous nous devons travailler. Des autres défis, bien sûr, c'est aussi pour mettre la RDC sur la carte globale et la carte internationale. Et là, vraiment, on regarde la communauté internationale, les ambassadeurs et le gouvernement lui-même, de vraiment s'assurer que la RDC est sur la liste des priorités, pays prioritaires qui ont besoin d'une appui technique et financière, bien sûr. Il ne faut pas oublier la potentialité qu'il y a ici. Donc je pense que c'est les deux grands défis que nous avons dans notre travail.
Bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup.
Je vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, la directrice de programme d'alerte internationale, Lassie Williams, parlait des actions qui sont menées par cette ONG britannique pour restaurer la paix et la cohésion sociale entre communautés de l'Est de la RDC et s'entraînait à Bukavu avec Cynthia Bashizi Nabizana. Ainsi se referme cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Élise Tikotamwamboui et Alain Irungmujish qui m'ont accompagné. Retrouvez ce journal sur www.radiokapi.net. Dans quelques instants, la page des sports. Le rendez-vous avec Dieudonné Kabayangalula. Il est 18h20 à Kinshasa.